en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Maurice Genevoix de l'Académie française, un jeune auteur à redécouvrir, en quatre émissions proposées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Troisième émission, Les Bestiaires, avec Monique Ferry, professeure agrégée de lettres modernes, enseignante à l'IUFM de Créteil, et pour la musique, Olivier Messiaen, le catalogue des oiseaux. Les éditions Livres de Poche Hachette Jeunesse viennent de rééditer deux contes de Maurice Genevoix, De la chèvre au loup et dans le même volume Mon ami l'écureuil. Vous êtes, Monique Ferry, l'auteur de la postface de ce volume, mais il y a une autre raison à votre présence ici. Vous avez été rapporteur du Haut Comité de la langue française, service du Premier ministre, dont Maurice Genevoix était président. À ce titre, vous avez donc travaillé avec lui et l'évocation de ce travail sera l'objet de la dernière partie de notre émission. Mais en premier lieu, intéressons-nous aux bestiaires. Bestiaires avec un S, car Maurice Genevoix en écrivit plusieurs, ou plus exactement comme Montaigne. Pour ses essais, il les complétait, les enrichissait au fil du temps, Monique Ferry.
Oui, tout à fait. Avec une différence quand même par rapport à d'autres écrivains qui ont aussi traité le thème des figures animalières, Maurice Genevoix a réellement repris un genre très ancien qui remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est le physiologus qui a lancé ce genre littéraire, disons. C'est-à-dire qu'il se composait à l'origine de deux parties, une partie sur purement descriptive, sur l'animal, et une deuxième partie symbolique, un symbolisme qui pouvait toucher un symbolisme social, moral, philosophique, religieux. En fait, les bestiaires, je suis obligée de développer un tout petit peu, pardonnez-moi, les bestiaires ont connu un grand développement au Moyen-Âge, et un bestiaire auquel on se réfère très très souvent est le bestiaire d'Oxford. Au Moyen-Âge, les clercs ont ajouté des enluminures absolument merveilleuses, et Maurice Genevoix, lui, va ajouter à ses bestiaires des aquarelles et quelquefois même beaucoup de dessins. Donc, il y a une filiation certaine et une originalité. Bien sûr, il y a toute la tradition des figures animalières dans les fables, depuis Ésope, Phèdre, les Isopées au Moyen-Âge, et puis bien entendu, le roman de Renard. Mais Maurice Genevoix va traiter ça d'une autre façon, avec un talent beaucoup plus diversifié, disons, puisque ces animaux vont être vraiment de notre vie quotidienne, de notre vie courante. Il va aller chercher des figures pratiquement de sa vie familiale, des animaux qu'il a beaucoup aimés, des animaux des forêts, des animaux sauvages, et il va leur donner une silhouette et une signification bien à lui. Les bestiaires, comme vous l'annonciez tout à l'heure, sont en fait un triptyque avec Tendre bestiaire, qui est une sorte de reconnaissance.
Donc Tendre bestiaire a été le premier.
Il était destiné en fait, le premier bestiaire a donné lieu à des chroniques à la radio. C'est-à-dire que Maurice Genevoix a utilisé tout son talent de conteur pour rendre vivantes ces chroniques radiophoniques. Mmh. Et puis, comme ces chroniques ont eu énormément de succès, eh bien il en a fait un ouvrage. Il en a publié un, deux et trois. Et ça s'échelonne entre 69 et 71.
Donc il y a Tendre bestiaire.
Alors, Tendre bestiaire, Bestiaire enchanté et Bestiaire sans oubli. Oui. Mais en fait, il y a toute une progression. Tendre Bestiaire lance le contact de Maurice Genevoix avec les animaux. Ces relations très personnelles que l'on peut établir avec le règne animal, et en particulier la première rubrique qui ouvre Tendre Bestiaire, c'est l'abattoir. Maurice Genevoix a eu une fracture d'une jambe. Et après avoir eu un plâtre, comme beaucoup d'enfants, on a trouvé que sa jambe manquait de résistance et devait redevenir tout à fait souple et solide comme avant. Et on lui trempait la jambe à l'abattoir dans du sang de vache qu'on venait à peine sous ses yeux d'abattre.
Voilà. Donc ça, il en parle et ça a été un véritable traumatisme.
Oui, et il le dit très très bien. Quand il sortait sa jambe, il l'a sortie en fait du sang coagulé. Donc ça a un caractère assez éprouvant pour l'enfant.
Et on abattait pour lui. Une vache.
Et donc,
traumatisant. Hein.
Tout à fait. Dans une rubrique qui s'appelle La Caille, il entend le chant de la caille et il a l'impression qu'elle dit... péter dette. Et en fait, il paie ses dettes en écrivant ces sortes de monographies. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un classement alphabétique qu'il a choisi.
Il a une dette vis-à-vis des animaux, bien entendu,
et il va le rendre. Et ces animaux vont s'inscrire pendant toute sa vie, puisque la merlette des éparges est connue. Cet oiseau qui fuse devant lui à un moment inattendu où il est tout abattu par la guerre et la dure vie des tranchées, et elle est devant lui symbole de vie, de régénérescence. Tendre Bestiaire, donc, c'est un acte fondateur pour les bestiaires, mais Bestiaire enchanté, lui, est baigné de toute une lumière absolument extraordinaire, puisqu'il s'agit des moments exceptionnel que l'on passe en plein accord avec la nature, en plein accord avec l'animal. Je pense qu'on reparlera de l'écureuil tout à l'heure, mais c'est vraiment un moment de bonheur. C'est une sorte de merveilleux qui est au-dessus du réel en définitive. C'est un surréalisme que nous pouvons approcher et qui donne à l'homme le bonheur. Mais les bestiaires se terminent par Bestiaire sans oubli. Et là, c'est la dure réalité qui rattrape les animaux, c'est-à-dire la mort. Et la mort, là, c'est toute la. Ce n'est plus du tout ce que l'on dit habituellement de Maurice Genevoix, c'est-à-dire que ce n'est pas l'angélisme, ce n'est pas le tout est beau, tout est bon, c'est le réalisme et quelquefois le naturalisme qui apparaît.
Nous allons ouvrir ces bestiaires en écoutant la voix de Maurice Genevoix grâce à une archive familiale qui nous a été aimablement prêtée. Nous écoutons donc Maurice Genevoix nous racontait la chronique du hérisson.
Hérisson, chez nous autres hommes, n'a pas la réputation qu'il mérite. Parce qu'il se met en boule dès qu'il se sent en danger. Parce que, en hérisson qu'il est, notez bien, il hérisse alors les piquants dont la nature l'a pourvu. Il est devenu le symbole des insociables et des grincheux. Jusque dans le monde végétal, je connais une plante espagnole qui fleurit jaune comme le genêt, mais dont les tirses barbelées piquent avant même qu'on l'ait touchée. Son nom, c'est la hérissonne. Tout cela est très injuste. Se mettre en boule, tous les piquants dehors, ce n'est pas braver son prochain, c'est refuser d'être écharpé, bouilli, mangé, du moins pour le hérisson. Avez-vous vu un chien de chasse aux prises avec ce mangeur d'insectes? Eh bien, voyez-le, piété, raide, sur ses pattes arrière et sur une patte de devant, tout le corps tendu, frémissant, la queue droite, la quatrième patte en suspens, très circonspecte, il aboie à s'étrangler. De temps en temps, bridé par une prudence qui jure d'ailleurs avec sa frénésie et qui la rend dérisoire, il risque à semblant de toucher. La patte levée s'avance, les ongles retraits, effleure à peine et se retire comme sous une décharge électrique. Cela relance une rafale d'aboiements, d'invectives, de défis délirants. Et cependant, le hérisson, lui, strict, hermétique, sphère intégrale de toutes parts, acutée, écoute battre son cœur dans les brefs intervalles où le braillard reprend souffle. On croirait impossible qu'il puisse se bouler davantage. Eh bien, si, à petite secousse, tressaillante, tétanique, ses muscles se contractent encore, pas une bourse d'avare dont les cordons puissent mieux fermer l'issue. Et c'est lui, finalement, qui marquera le dernier point. Écœuré, piteux, la queue basse, l'aboyeur quittera la partie. Vive donc le hérisson, messieurs. Si je le dis, c'est que, contre l'opinion reçue, je le sais non seulement utile, gardien très attentif des potagers et des vergers, aux yeux aussi zélés que son appétit est gaillard, mais courtois, bon homme et volontiers liant, car j'ai eu moi un hérisson pour ami et pour compagnon, ou plutôt toute une famille, père, mère et progéniture, trois hérissonneaux bien drus. Ils étaient venus par le bois du côté de la cuisine, entendez, de la poubelle, évidemment. Plusieurs fois, regagnant la maison après une marche nocturne, j'avais perçu de ce côté-là un fourgonnement révélateur. J'avais pensé d'abord quelque chat venu du hameau voisin, mais un chat eût été tout ensemble moins furtif et plus adroit. Et surtout, à l'évidence, mes visiteurs étaient plusieurs. La nuit suivante, je pris le guet dans la maison. De ce côté, je dois vous le dire, la cuisine s'ouvre sur une courette cimentée qu'éclaire la nuit une lampe commandée de l'intérieur. Au premier remue-ménage, je donnai brusquement la lumière et je les vis, tous les cinq, pareillement affairés, surpris, levant le groin et décampant. Mais dans le peu de temps où mon regard les avait saisis, j'avais eu de quoi m'étonner. La poubelle était trop haute pour la taille du père hérisson. Alors, tout bonnement, père et mère, ils s'étaient fait la courte échelle. Et moi, je regrettais mon fiat lux, vous savez, d'homme, et la panique qu'il avait provoquée, mais je ne suis pas nyctalope, et c'est tant mieux sans doute pour mes yeux d'animal diurne, je me fis donc assez vite une raison, et cherchai l'approche autrement. L'Emmanuel classe le hérisson parmi les insectivores, mais il est omnivore, et j'en eus sans tarder la preuve. À défaut de hanneton, de ver blanc, ou de lombric, je répandis sur le ciment de la courette un chapelet de déchets de boucherie, graisse et tendons prélevés sur le rôti. Comme les cailloux du petit poussé, vous voyez cela, il menait droit au seuil de la cuisine. Et là, sur la marche même, je mis le plat de résistance, quelques fragments de chair pulpeuse et tendre parmi les vils rogatons. Mais je pris soin de les envelopper à demi dans ce papier raide et jaune dont font usage les bouchers. Et moi, caché derrière la porte, j'entendis parfaitement ce que j'avais espéré et prévu, les craquements du papier dépliés par des pattes agiles, mais je ne troublais point leur ripaille. La nuit d'après, je laissai la porte entr'ouverte, ayant placé le gros de la provende offerte à l'intérieur, sur le carrelage de la cuisine. Eh bien, il ne fallut pas plus de trois nuits pour qu'ils y entrassent comme chez eux, tous, père, mère et les trois rejetons à la file. Je n'en revenais pas de la facilité avec laquelle ils s'accoutumaient. Plus de panique, ou du moins très vite calmé, à chaque degré qu'à mon initiative, nous gravissions dans cette escalade d'amitié. Fermer la porte, donner de la lumière, les attirer dans le vestibule d'entrée, plus intime et mieux propice à leur débat. Ils ne s'étonnaient plus de rien, et moi non plus, décidément, à leur exemple. Je trônais sur la banquette de chêne, je les avais tous à mes pieds, et maintenant, je ne confondais plus leurs frimousses respectives, leurs attitudes, leurs particularités individuelles, tous sombres, semés de sel gris, tous pourvus du même groin outil, propre à fuir jusqu'aux larves terrestres, tous l'œil brillant et vif sous l'auvent raide des sourcils, mais le père plus rond du crâne, la mère plus furteuse et plus prompte, les trois petits à l'avenant, celui-ci, bagarreur, tout de suite sur le dos et montrant son palais rose, aux fortes dents bien serties, celui-là, plus malin et visant à coup sûr la proie tendre, le dernier maladif et cocasse, allant, venant, toujours en retard, toujours frustré à l'arrivée. Et moi, j'intervenais dans un grand souci d'équité. Je les touchais, les écartais doucement. Ils ne se mettaient plus en boule. Je pus bientôt les prendre dans ma main. Aussitôt, le réflexe se jouait, flexion du ventre, hérissement des pointes, mais cela n'allait jamais plus loin. Je les sentais très vite se détendre, renoncer de plein gré à leur défense hérissonnière. Leur piquant même devenait anodin, comme si le poids de leur corps dodu s'était brusquement et volontairement allégé. Alors je les rendais à leur Balthazar. Et quelle mâchoire ! Aucun tendon ne résistait, de prodigieux broyeurs d'ordures.
Monique Ferry, en fait, on entend là le réel plaisir, l'appétit de conteur de Maurice Genevoix. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'était une commande pour la radio, donc l'oralité est inscrite dans le style, dans le texte même.
Oui, tout à fait. Il y a un dialogue avec le destinataire, il y a des explications complémentaires. Mais je voudrais revenir sur le sens même. Parce que fait Maurice Genevoix dans Le Hérisson ? Il part d'une symbolique facile et traditionnelle. On dit que le hérisson, c'est le grincheux, c'est l'insociable. C'est une sorte d'animal emblématique. Et Maurice Genevoix va prouver en définitive que c'est le contraire. Et que ce physique de l'animal fermé sur lui-même, par ses piquants, est remis en cause. C'est une démarche contraire à celle de La Fontaine, qui dans Le Loup et l'Agneau vous dit « nous l'allons prouver sur l'heure ».
Oui.
Vous voyez, donc encore
alors
une originalité.
Alors que Genevoix veut qu'on aille au-delà des apparences.
Exactement. Et son jeu de l'écriture ici, c'est de réutiliser les expressions toutes faites. Vous avez entendu se mettre en boule, qui a un double sens, puisque c'est à la fois physique et en même temps, c'est lié à être de mauvaise humeur. Donc nous avons un sens figuré. Et il va montrer qu'il est au contraire liant, dit-il. C'est un terme magnifique. Il joue avec les mots. Et il va imaginer tout un jeu. Il y a des images extrêmement amusantes, comme la courte échelle. On voit de nous-mêmes cette espèce de cumul des petits corps. Donc ça, ils sont vraiment immobilisés dans une sorte de... Je suis sûre qu'il aurait pu faire le dessin. Et puis ensuite, il va jouer avec eux. C'est un petit peu comme le jeu, pardonnez-moi, du petit poussé.
Oui, tout à fait.
Voilà, ce ne sont pas les cailloux du petit poussé, ce sont des morceaux de viande. Et là... Maurice Genevoix a quand même besoin de montrer qu'il est capable de les apprivoiser. Et effectivement, il les apprivoise, mais ils le veulent bien. Ils le veulent bien, ils se détendent. On va trouver la même chose avec le jeune écureuil. Ils vont se détendre, il va vraiment être en contact avec eux.
Mais ils respectent la place des animaux, c'est-à-dire ce n'est pas, ils les apprivoisent, mais pas dans un sens les piéger,
oui,
de les enfermer.
Exactement, donc c'est le bon
ils
sens.
Ils respectent leur dignité,
voilà,
si on peut dire.
C'est le bon sens des choses. Et si vous avez lu jusqu'à la fin, l'aventure va être redoublée en définitive, mais à la fin, les hérissons ne reviennent plus. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que l'animal a choisi, qu'il est venu de lui-même, et puis qu'il y a un moment où c'est fini, en fait. Voilà. On va le retrouver, ceci.
Oui. Nous allons écouter maintenant un autre bestiaire musical, celui-ci, un bestiaire qui ne s'intéresse qu'aux oiseaux. Voici un extrait du catalogue des oiseaux d'Olivier Messiaen.
C'était le Loriot d'Olivier Messiaen. Alors, nous allons nous intéresser nous-mêmes au Loriot de Maurice Genevoix. C'est d'abord, il faut dire qu'il y a dans une édition. Quelle est l'édition illustrée, cette très belle édition où nous voyons ce Loriot, en fait, qui est un merle jaune.
En oui, fait, qui tout est à fait.
Une autre appellation du merle jaune avec un magnifique dessin, une magnifique aquarelle, en fait, une reproduction d'une aquarelle de Maurice Genevoix. Car il faudrait que nous abordions ce sujet, Monique Ferry, en fait, qui est peut-être moins connu. Maurice Genevoix était au fond un très grand peintre animalier, un dessinateur tout à fait extraordinaire, un coloriste aussi.
Oui, c'est une facette de son talent qu'on connaît peu, mais en fait, très très jeune, il a commencé à dessiner. Il dit lui-même qu'il a hésité entre deux vocations. Et donc, et il y a aussi dans son écriture une tentation de peintre. Il sait merveilleusement rendre l'écriture de la couleur, peut-être parce que justement, il a fait beaucoup d'aquarelles et de dessins. Alors,
De ces aquarelles pour chaque animal présenté, c'est dans l'édition donc de Tendre Bestiaire chez Plon de 1972. Malheureusement, je pense que c'est épuisé, mais vous pouvez, chers auditeurs et auditrices, le trouver en bibliothèque. C'est un très 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 beau livre. Oui.
Alors, le thème des oiseaux est un thème extrêmement présent et difficile à traiter, puisque les oiseaux sont, par définition, des animaux que l'on observe moins souvent, moins fréquemment. Mais le Loriot est tout à fait extraordinaire. Il est d'un beau jaune doré, comme vous pouvez le voir sur la reproduction de l'aquarelle de Maurice Genevoix. Il a un champ sonore très particulier aussi, et il figure parmi les animaux qui se partagent la sympathie des hommes. Il est moins souvent cité que l'hirondelle, qui annonce le printemps.
Mais il est peut-être plus rare aussi.
Il est beaucoup plus rare.
Personnellement, je n'en ai jamais vu.
Voilà, mais Maurice Genevoix en a eu un dans son jardin des Vernelles, hein, parce que c'est le Loriot des Vernelles.
Donc les Vernelles, qui est le nom de la maison de Maurice Genevoix en bord de Loire.
C'est ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Loriot est un signe du printemps, mais surtout du printemps aux journées ensoleillées, propices aux fleurs, aux fruits.
Prospère.
Et voilà. Et il est associé à tout ce qui est la saison nouvelle, l'illumination solaire, de la couleur. Et il a une symbolique qui est jusque dans la littérature chinoise. Mais, vous voyez, il...
Donc, ici, Maurice Genevoix retrouve la tradition du bestiaire symbolique du Moyen-Âge aussi.
Certes. Il est aussi important, le Loriot, que le rouge-gorge ou le chardonneret, qui, eux, ont une valeur beaucoup plus religieuse. Alors... Mais il va traiter le thème de façon extrêmement simple, si vous vous souvenez de la chronique. Ça se passe toujours dans le milieu familial, et c'est une rencontre entre Maurice Genevoix, Suzanne Genevoix et l'oiseau, en fait. Mais il y a un personnage tout à fait étrange qui est le jardinier, le mage jardinier. Il fait partie de ces êtres qui sont en contact naturel avec la nature et qui connaissent des secrets. Et des secrets qui ne
sont
pas...
C'est un passeur, en fait. Il fait un rôle de passeur.
Oui, mais des secrets qui entrent presque dans la magie. Mais il ne va pas traiter du tout ce thème de cette façon-là. En fait, le Loriot, donc gage d'un printemps et d'un été extrêmement fécond, est menacé par un méchant petit garçon, un petit voisin qui tire sur les oiseaux. Et Irénée, le jardinier, est tout à fait scandalisé par cela, bien que lui-même ait aussi certains actes criminels sur les oiseaux et sur les animaux. Mais on ne touche pas au Loriot, c'est un oiseau sacré. Alors, si Maurice Genevoix avait montré simplement la coïncidence entre le printemps magnifique qu'il annonce au début de la chronique et qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de la chronique, il y a vraiment un encadrement du printemps magnifique et décrit avec tout le talent de l'auteur. Il y a des jonquilles, arbres de Judée, buissons ardents, le jardin exulte, allume des torches de couleur. Mais bientôt, parce que le Loriot a été menacé par ce vilain petit garçon, eh bien, tout devient terne, tout devient menaçant. Et l'affaire se termine bien puisque les parents s'en vont. Et à ce moment-là, on entend le loriot, on entend son chant sonore, prodigieux de force liquide, pur et rebondissant comme monte la gerbe d'un jet d'eau, qui est entendu à la fin de la chronique, en même temps que les fleurs, les pommiers, les cerisiers resplendissent de toutes leurs branches. Donc, si Maurice Genevoix avait fait simplement une coïncidence entre l'arrivée du loriot et le printemps, il n'aurait rien démontré. Mais l'histoire, l'anecdote de ce petit garçon qui menace un temps le printemps, montre au contraire, démontre le pouvoir du loriot. Et ça, cette chronique a un caractère magique.
Mais en fait, les bestiaires, on se rend compte, sont magnifiquement construits, savamment construits, je voulais dire. Ils ont, avec une rhétorique vraiment imparable, il nous tient par la main, il ne nous lâche plus, il y a un exorde qui parfois d'ailleurs semble très éloigné du titre, de l'animal choisi, mais qui permet à Genevoix de donner un portrait, de nous faire un portrait, soit d'un personnage, ou d'étayer une pensée ou une remarque sur la société aussi. Il profite des bestiaires pour parler des hommes et de la société aussi.
Bien sûr.
En ce sens-là, n'aurait-il pas inventé un genre, au fond ?
Oui, tout à fait. En tout cas, il le renouvelle profondément. Pensez à la pipistrelle, donc la chauve-souris, qui est une indication de nos craintes, de nos frayeurs, et qui, en fait, est également décrite dans toutes ses particularités d'animal grégaire.
Oui. Je parlais de ça parce qu'à partir du moment où un auteur parle de la nature, on a tendance à sembler que le style est donné comme ça, de façon évidente, presque sans travail. Justement, à ce sujet, je voudrais vous lire un petit extrait de la réponse de Monsieur André Chaumex au discours de Maurice Genevoix lors de la remise de l'épée, je pense, du 13 novembre 1947. Monsieur André Chaumex s'exprime ainsi. Vos ouvrages pénétrants dans la paisible cité des livres doivent y faire l'effet d'un coup de vent salubre et véhément. C'est leur caractère essentiel, d'autant plus frappant qu'il est naturel. Vous ne l'avez pas cherché, vous ne cherchez jamais, vous êtes toujours vous-même avec innocence et obstination. Votre destin était d'être, à votre manière, un poète de la nature. Alors, c'est un peu étrange de parler de naturel et d'innocence. Comment vous pourriez...
Tout à fait, c'est le résultat qui semble naturel. Mais il y a un art et une construction extraordinaire. Chaque petite monographie des bestiaires demande une étude. Il y a vraiment un art et une connaissance. Tout à l'heure, je vous ai dit, il inverse en fait le procédé de La Fontaine. Il y a, je vous ai indiqué aussi qu'il y avait une recherche au niveau de la couleur. Donc, il n'y a pas uniquement un vocabulaire étendu, il n'y a pas uniquement
une rhétorique.
Il y a aussi la perception de l'essentiel. Et à ce moment-là, on retrouve un petit peu le peintre. Maurice Genevoix a été un ami de Vlaminck, qui disait que Vlaminck disait qu'il n'avait vraiment trouvé son style qu'en s'étant imprégné, enraciné dans la terre, dans une région, pour en trouver l'essence. Eh bien, je crois que c'est ça pour Maurice Genevoix. On a tort de dire que c'est uniquement un régionaliste, le chantre d'une région. En fait, non. Il est arrivé à pénétrer la vie des animaux parce qu'il les a longuement observés, parce qu'il les a aimés, parce qu'il y a une sorte d'intuition et de communication extraordinaire entre eux, entre lui et eux, et vraiment, il est entrer dans cet univers qui est un univers presque magique. On oublie également trop souvent la dimension un peu alchimique des bestiaires. Et ce côté n'a absolument pas été étudié. Irénée dans le Loriot parle du petit Albert. Donc on est dans ce domaine où Rimbaud disait qu'il fallait se faire voyant, où Baudelaire parlait des correspondances. Et on est dans un univers quasiment sacré, donc je crois que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu y voir. Dire que c'est simplement des animaux, bien sûr c'est faux. Il y a la connaissance de l'essence des choses, et je parlais de Vlaminck. Vlaminck disait qu'il n'avait été maître de son art qu'au moment précis où il avait saisi l'essence des choses.
D'autant qu'il y a peut-être une prémonition aussi de la disparition dans nos vies, de ce contact avec les animaux, en fait, dans nos vies de citadins.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est...
Et donc, il y a un rôle à jouer.
C'est
aussi,
vrai que...
De sa part, il a à nous les faire connaître aussi,
oui,
à nous les faire aimer, à nous les faire connaître.
Ou à nous les faire retrouver.
Retrouver, voilà.
Parce que nous venons, en fait, de très, très loin. Et Genevoix le montre aussi très, très bien. Nous venons de la forêt. Nous venons de
la forêt sacrée,
ouais, tout à fait.
Ouais, tout à
et
fait.
Nous sommes coupés de cet environnement primordial. Nous vivons maintenant dans un univers de béton, mais ceci est très mauvais pour nous. Et justement, les animaux seront un lien encore avec ces origines.
Ouais, moi, lectrice, lisant ces bestiaires de Maurice Genevoix, c'est un peu le message que j'entends, qu'il me lance par-dessus les âges
oui,
et les années.
Oui, c'est un cheminement personnel, mais en même temps qui doit être collectif. Il y a une prise de conscience à donner, oui.
Alors, nous allons retourner un moment avec Olivier Messiaen. On reste toujours dans le domaine animalier, celui des oiseaux. Alors, ce sera l'alouette Lulu. Alors maintenant, Monique Ferry, nous allons nous intéresser au castor. Dans le castor, il y a aussi, dans le castor et un peu dans toutes ces notices d'animaux, il y a aussi une dimension pédagogique. En fait, Genevoix commence par ici, précisément, par nous renseigner sur l'étymologie, tout en la dénonçant d'ailleurs comme une science hasardeuse, encore une figure de rhétorique. Le castor, qui était en ancien français le bièvre, d'où le nom de la rivière affluent de la Seine, qui est malheureusement enterrée aujourd'hui, la Bièvre, donc qui était une rivière où il y avait des castors. Que dire du castor ?
Alors le castor, nous le trouvons dans la chèvre-loup.
Oui.
Nous le trouvons dans la chèvre-loup, mais nous le trouvons aussi dans les bestiaires. Et le castor a été observé avec beaucoup d'attention par Maurice Genevoix dans sa nage et dans son habitat. Et donc il est vrai que l'intérêt de la lecture, soit des bestiaires, soit de la chèvre-loup, c'est de trouver un véritable naturaliste qui a observé l'animal avec beaucoup d'attention et d'amitié. Il y a une autre étymologie pour castor. Hein. Le castor viendrait du sanskrit casturi, qui signifie le musc, c'est-à-dire la substance qui est sécrétée par ses glandes et utilisée en parfumerie. D'où l'acharnement contre cette bête, aussi bien pour sa fourrure que pour ses glandes. Le castor tel qu'il apparaît, lui aussi se laisse voir complaisamment dans Tendre Bestiaire. Lors d'un voyage de Maurice Genevoix au Canada, dans le parc de Banff, dans la province d'Alberta. Il se laisse voir et il sait qu'il est observé. Et là encore,
il sait qu'il est beau.
Et il sait qu'il est beau. Et sa nage est absolument extraordinaire. Mm-hmm. Et là, il y a vraiment un échange entre Maurice Genevoix et le castor. Mais le castor, car il est à la fois... il est l'intermédiaire entre la mer et la terre. Et
ah
donc, oui. Donc
oui,
la symbolique
il
commence
va de l'eau à la terre,
voilà.
De la terre à l'eau.
C'est ça. En plus, il est doué de qualités intellectuelles qui le haussent au-dessus des autres animaux. Il est capable de se faire un habitat. Il est capable de le restaurer, il est capable de prévoir ce que ne font pas les
oui,
autres
animaux. C'est un constructeur.
Animaux. C'est un constructeur et c'est quelqu'un aussi qui restaure. Donc ça, c'est très très important. Et il est considéré comme étant supérieur, il est dans la hiérarchie animale. En plus, il a des mains, il a véritablement des mains particulières et donc il est proche de nous. Et dans la chèvre au loup, il est une sorte de double de l'auteur puisqu'il va raconter une histoire.
Oui, c'est lui le narrateur
voilà,
second.
C'est
en fait,
lui le narrateur
lui.
Second, oui. Exactement. Mmh. Et pour toutes ces raisons, il peut recevoir un nom, il peut en donner et il peut restaurer la paix, le bonheur de vivre. Mais attention, nous sommes dans un parc, nous sommes dans une réserve du Canada. Est-ce que cela serait possible?
Où le meurtre est interdit.
Où le meurtre est interdit.
C'est l'expression de Maurice
voilà.
Genevoix, où le meurtre est interdit.
Le meurtre
donc,
est interdit.
Quand on tue des animaux, on ne chasse pas,
voilà,
on assassine en fait, hein, le meurtre.
C'est ça. Donc, histoire réelle, histoire protégée, histoire fictive bien entendu, mais qui apprend beaucoup et qui apprend beaucoup de choses et qui a beaucoup de résonance symbolique.
Et justement, dans ces parcs, dans ce même parc canadien, en fait, Maurice Genevoix entendra le loup, les loups. Et donc, il a aussi écrit une notice, alors,
Le
loup.
Alors, le loup.
D'ailleurs, en faisant ça, il perpétue une tradition du conte, en fait, le conte où il y a ce personnage central, toujours, le méchant loup. Dans La chèvre au loup, d'ailleurs, aussi, il a ce rôle, le loup. Il est méchant.
Mais comme vous le savez, le loup, depuis qu'il est traité, aussi bien dans les fables que dans les bestiaires, est une figure ambivalente. Il peut être positif ou négatif. En fait, Maurice Genevoix a pris le côté négatif du loup, car il est très très influencé par toutes ces chroniques de la vénerie, tous ces traités de zoologie, toutes ces notes historiques que l'on a en France. Le loup était encore présent dans nos forêts à la veille de la guerre de 14. Il a été éliminé en très très grande quantité. Donc, pour revenir au bestiaire, sa caractéristique essentielle, c'est d'avoir une gueule avec des dents particulièrement redoutables, une force de la mâchoire et en même temps un déséquilibre dans les pattes, entre les pattes antérieures et les pattes postérieures.
Ah oui.
C'est ce défaut qui va faire de lui un animal négatif, alors que les Grecs l'ont plutôt vu comme loukos, la lumière. Et on sait aussi qu'il est positif chez les Romains, ou tout au moins la louve romaine. Mais Maurice Genevoix va être beaucoup plus près de notre histoire, comme vous le disiez. Je ne sais pas si je peux développer un tout petit peu sur le loup.
Mais bien sûr, on est là pour développer.
Parce que, en fait, tout ce qui est un petit peu ancien nous transmet une image du loup qui vient du loup méditerranéen. Il se trouve que au moment où nous avons subi les invasions des Goths, des Visigoths, enfin de tout ce qui venait du nord, Attila, etc., etc., était accompagné du loup sibérien. Le loup sibérien était beaucoup plus redoutable que le loup méditerranéen, qui n'était en fait que l'ennemi du chien. C'était un petit cabot dont il fallait se méfier. Et à la même époque, l'Empire romain s'étant écroulé, là ce sont des notions historiques, la forêt, enfin tout ce qui était réglementation de l'agriculture, un peu de civilisation, de parcours des routes, s'est arrêté. La forêt a regagné à cette époque-là sur les champs cultivés. Et le loup s'est énormément développé et à partir de là, il est entré dans nos contes, bien entendu.
Oui, parce qu'on n'a plus conscience de ça du tout, bien sûr, aujourd'hui. C'est que encore au XIIe ou XIIIe siècle, en fait, la France était une forêt, pratiquement un territoire forestier, presque dans son entier. Enfin, c'était la forêt, c'était vraiment le lieu de vie de tous. Enfin.
Oui, tout à fait. Mmh. Et le loup a été non seulement un rival de l'homme sur le plan du gibier, bien entendu, mais en plus, comme il chasse en meute et qu'il est doué d'une résistance absolument extraordinaire. Il ne court pas vite, mais il a beaucoup...
Mais il réfléchit.
Il a beaucoup de résistance. Il est très ingénieux. La dernière battue sur le loup n'a pas permis d'en voir un seul.
Oui.
Il est très intelligent.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a eu non seulement Charles le Téméraire, dont le cadavre a été dévoré par les loups, mm-hmm. mais beaucoup d'envoyés du roi, et même des gens de l'armée qui ont été dévorés par des loups, surtout dans les périodes de troubles, où il n'y avait plus une surveillance très grande. Et dans la rubrique du loup, vous voyez, sur le loup, il faut que je m'arrête quand même. Dans la rubrique du loup, que fait Maurice Genevoix? Eh bien, il retient cette vision-là, mais il a été très impressionné par un loup qu'il a vu dans un zoo et qui a coupé la lanière de son appareil photo qu'il s'en aperçoive à travers le grillage.
Oui, il raconte ça, c'est
donc
tout à fait étonnant.
Il a mesuré.
Il est saisi, Maurice Genevoix, par cette expérience.
Il a mesuré l'habileté et la force du loup. Et dans La Chèvre-Loup, vous trouvez ce loup terrible suivi par sa meute et il reprend exactement les caractéristiques du loup. Hein, il a vraisemblablement lu, non pas, c'est pas uniquement documenté sur l'habitat et sur la façon de vivre, le comportement du loup, mais il a certainement vu des chroniques historiques, vu des traités de vénerie. Eh bien, le loup ne chasse, d'ailleurs il court droit devant, il ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui explique son acharnement contre la petite chèvre des montagnes rocheuses. Enfin, quand je dis petite chèvre, c'est entre guillemets, parce que elle tient à la fois des cervidés et des capridés, et donc c'est une bête considérable qui va arriver à lui résister. Mais il va falloir la ruse, bien entendu, pour avoir les loups.
Mais il y a dans cette chronique des loups, dans cette notice, quand même un aspect extrêmement triste, et parce qu'en fait il entend, donc il commence par l'écoute, il entend, il est au milieu de la forêt en fait, avec d'autres personnes, enfin ils campent et ils sont dans leur tente et ils entendent ce chant du loup
tout à fait,
ils se réveillent, et ce n'est pas à cause de la force, de la puissance, parce qu'en fait ils entendent ça d'assez loin, et c'est une l'impression que ça les traverse, que ça les... Il y a une relation entre eux et ce chant tout à fait extraordinaire. Ils sont complètement remués par ça. Il paraît qu'une fois qu'on a entendu ça, une fois dans sa vie, on ne peut plus l'oublier.
On ne peut plus l'oublier.
Un peu comme le chant des baleines.
Vous soulignez tout à fait, avec juste raison, une caractéristique du loup, qui est son hurlement, effectivement.
Et comme il est seul au milieu des neiges, en fait, il y a un sentiment de solitude
et, Maurice Genevoix
très grand.
Dit qu'il est au ras du sol, il court au ras du sol, ce hurlement. Mais en même temps, ça correspond, le loup est vu comme un animal ctonien, c'est-à-dire qu'il est près de la terre. Et il remarque aussi une deuxième chose caractéristique du loup, c'est qu'il ne vous regarde jamais.
Oui,
il vous transperce, comme s'il voyait un au-delà. Et donc ça, c'est considérablement, c'est très terrifiant, enfin c'est terrifiant.
Ouais. Vous voyez. Et alors, évidemment, ce loup...
Alors, excusez-moi. Donc, le hurlement du loup va devenir le symbole du malheur. Hein, c'est ce qu'il dit.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Le malheur pour les pauvres
gens. On en frissonne
gens.
Quand on l'entend, on en frissonne. Oui.
Et dans les ouvrages pour la jeunesse, nos auteurs n'arrivent jamais à apprivoiser le loup. Parce qu'il reste justement sur cette ambivalence. Beaucoup d'auteurs essaient de le rendre très sympathique pour éteindre cette espèce de crainte, mais en fait, il est ambivalent. Je parlais tout à l'heure de sa mâchoire. Il y a un autre personnage. En fait, il est dans la continuité de Chronos, qui dévore le temps, et il est dans la continuité de l'ogre, qui dévore.
Oui, tout à
et
fait.
Le loup est vraiment... voilà.
Et qui habite deux habitants de la forêt terrible, qui font trembler tous les petits enfants et nous-mêmes encore.
Oui, je crois que ça reste. Mais la peur d'être dévoré reste. Ça, c'est une...
Oui.
Ça,
ça nous constitue. Ouais. Et alors, curieusement, ce loup grandiose est un peu maltraité dans le roman de Renard. Renard, finalement, sera victorieux. Et donc, le loup Isengrin est fort, mais sa force, précisément, le rend un peu ridicule.
Alors, vous en arrivez.
Pendant qu'il est fort, il est un peu ridicule.
Vous en arrivez au roman de Renard, effectivement.
Et
qui est une œuvre
de Renard aussi, oui, bien sûr.
C'est vrai que Isengrin finit par être paraître vaincu par Renard, quoique le dernier combat soit incertain, et que Renard, à la fin, au dernier chapitre de Maurice Genevoix, arrive à s'échapper en passant par des sortes de petits défilés, et il arrive à être sur une roche et il va surplomber. Mais Isengrin est décrit avec un regard jaune. Il a une force brutale qui n'apparaît pas forcément dans le roman de Renard du Moyen Âge. Donc là encore, Genevoix a renouvelé le thème. Et il a voulu faire dans le roman de Renard non pas une branche supplémentaire comme le faisait l'éclair du Moyen-Âge, en ajoutant un caractère ou en faisant de Renard un hypocrite, l'hypocrite religieux, comme c'était tout à fait à la fin du roman de Renard. Il a voulu en faire le roman d'apprentissage d'un personnage qui va en fait survivre, car il y a une signification dans le roman de Renard. Maurice Genevoix le renouvelle totalement. Donc, d'autre part, ce renard, on va le retrouver dans les bestiaires. On le retrouve dans Bestiaires sans oubli. Donc, il est construit comme un roman d'apprentissage, avec une ouverture et une fermeture. Mais en même temps, Maurice Genevoix opère ce qu'on appelle un télescopage des temps. C'est-à-dire qu'au-delà des facéties de Renard, c'est la fin de la fable. Le jeu s'interrompt parce que c'est les temps modernes qui arrivent. Tout va changer et Renard termine par une sorte de prophétie. Les gros animaux comme l'ours vont finir par se faire domestiquer par l'homme. Le loup va finir par être éradiqué. Le chat va redevenir, qui est un gros chat dans le roman de Renard, un chat sauvage.
C'est un chat sauvage, oui, voilà. C'est pas du tout un chat domestique.
Non. Il va redevenir un chat domestique. Et en fait, ce sont les petits animaux qui vont rester, le blaireau, le renard, le lièvre. Et Renard est le symbole. Je sais que dans ses notes, Maurice Genevoix a écrit qu'il voulait faire donc le roman d'un être libre. Il est le symbole de la liberté.
D'ailleurs, il l'écrit ainsi. Fut-il jamais créature mieux vivante que Renard en cet instant du temps ? Il est au seuil de ses nouvelles années. Il peut regagner son litteau, retrouver sa femelle et ses fils. C'est mieux que retrouver le monde d'où, jeune goupil, il est parti au-devant de ses mille aventures, c'est l'accepter enfin d'un tel cœur qu'en vérité c'est le redécouvrir dans sa sauvage et merveilleuse vie. Ainsi le voici, le premier, non la seule libre créature par la plaine et par la forêt, mais la première à savoir qu'elle l'est, d'aussi exacte et tranquille certitude.
C'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'il résume en fait les caractéristiques de cette figure animalière. Il est le plus rusé parmi les animaux, mais il est aussi le plus rusé. Il est plus rusé que les hommes.
C'est ça.
Donc c'est aussi l'intelligence.
Et d'ailleurs dans la notice du bestiaire, dans la notice Le Renard, lorsque le garde emporte après, donc il emporte les trois renards morts, il les a tués grâce à un piège absolument horrible, donc il emporte les trois renards morts, la renarde, le renard et leur renardeau. Ce garde forestier semble surpris et conclut par un « Ça a quand même un cœur, c'est sauvage. » Et il est comme sidéré par cette bonne nouvelle, au fond, que nous annonce Maurice Genevoix, en fait, que les êtres humains ne sont pas seuls à avoir un cœur. C'est dire, au fond, que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes accompagnés.
Bien sûr, ce sont nos liens fondamentaux avec les animaux, qui ne sont pas uniquement des liens biologiques, mais aussi nous avons affaire à d'autres êtres pensants. Maurice Genevoix fait souvent allusion à Nerval dans son sonnet Vert doré, où il montre justement que nous nous croyons les seuls êtres pensants, et ce n'est pas la vérité, bien entendu. Mais je voudrais revenir sur la fin de Renard dans les bestiaires. Renard est vaincu, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le réalisme de la vie. C'est Maurice Genevoix n'est pas dans les faux semblants, il refuse l'angélisme. Il n'y a pas d'anthropomorphisme chez Maurice Genevoix. Voilà. Il n'y a pas de, comme dans le roman de Renard avec un T du Moyen-Âge, où on voit brusquement Renard sauter sur son destrier. Non, pas du tout. Donc, c'est le renard extrêmement vivant. Le premier chapitre est plein de vie de la forêt, de plaisir de partir à la chasse. Et à la fin, ça se clôt par une chasse. Vous voyez, la recherche au niveau de la composition est tout à fait intéressante aussi. Hein.
Oui, c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout innocent. Décidément
tout,
très savant.
Du tout. Et il y a des reprises et des refontes tout à fait intéressantes. Renard et les anguilles. Vous avez introduction d'un personnage qui est la reine des anguilles. Et Renard ne mange pas les anguilles. Le renard de Maurice Genevoix ne mange pas les anguilles. Il leur offre la liberté. Donc c'est bien caractéristique du personnage et de sa symbolique, de son symbolisme pour Maurice Genevoix.
Alors donc en fait Renard, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Renard est un sage.
C'est un sage. Oui, c'est un sage parce que il a rencontré dans une première partie les dures lois de la vie, c'est-à-dire qu'il a été trompé un peu par tout le monde. Et ça, c'est la reprise. Vous connaissez Chantecler, vous connaissez jusqu'au ce vilain petit méchant moineau. Il a pris sa revanche, mais après, il en a assez. Donc ces ruses, qu'est-ce que c'est? C'est voir que c'est la loi de la jungle sociale, mais ensuite
oui,
il en a assez.
Ça c'est tout à fait intéressant de voir que Maurice Genevoix en fait nous décrit un animal qui est capable d'apprentissage.
Voilà.
Il n'est pas accablé par l'inné, mais il est capable d'acquérir des connaissances.
Voilà. Hein? Et donc après il va décider de vivre libre et indépendant.
Nous avons un autre animal à découvrir, animal à fourrure lui aussi, mais d'un autre gabarit que le renard, c'est l'écureuil. L'écureuil du conte, Mon ami l'écureuil, qui est le deuxième conte du volume édité et post-facé par vous, Monique Ferry, chez Hachette Jeunesse, livre de poche, mais aussi l'écureuil de la notice ou chronique du bestiaire, illustré par les dessins animaliers de Maurice Genevoix.
L'écureuil est repris par Maurice Genevoix, mais encore une fois, pas tout à fait dans la tradition. La tradition des bestiaires, c'est de présenter l'écureuil comme le petit singe de la forêt. Un être un petit peu oublieux, qui laisse ses noisettes, ses noix un peu partout et qui ne les retrouve pas au moment de l'hiver. Une nature mauvaise par sa couleur, car comme le renard, il est roux. Même si certains écureuils sont un peu plus gris. Il est paresseux, on le disait lubrique, on le disait stupide. Il a été réhabilité par Buffon, qui en a vraiment fait un animal sympathique. Maurice Genevoix donc travaille en fait, retravaille tous les bestiaires et la hiérarchie des animaux. Le castor est très important et l'écureuil va être à l'origine des bestiaires. C'est une aventure qui a eu lieu très très tôt chez Maurice Genevoix, même si ensuite il en donne une interprétation un peu plus romanesque. En fait, il ne s'agit pas de n'importe quel écureuil, il s'agit d'un garçon écureuil, nous dit Maurice Genevoix. C'est-à-dire d'un animal qui est proche des origines et qui n'a aucune raison de se méfier de l'homme.
Oui, cet animal semble orphelin. Il va suivre Maurice Genevoix qui se promène en compagnie de sa fille, qui est une enfant, jusqu'à leur maison. Cet écureuil semble rechercher la compagnie des hommes.
Parce que c'est un animal jeune et donc il va communiquer immédiatement avec Sylvie, avec la petite fille. Et il va se laisser apprivoiser. Mais il se laisse apprivoiser. Ce n'est pas l'homme qui tente de l'apprivoiser, c'est l'animal qui accepte de se laisser apprivoiser.
Mais il le veut, hein, parce qu'il les
il
suit.
Il le veut parce qu'il les
jusque
suit
dans la maison.
Et c'est l'étonnement de tous, donc avec ce passage.
Il veut se faire adopter.
Voilà, il veut. Ou tout au moins, il a la curiosité. L'écureuil, c'est l'intelligence, c'est la curiosité.
De voir comment ça se passe chez les hommes.
Oui. Exactement, il est très proche de l'homme. Il a aussi des mains, des petites mains, comme le castor, vous voyez
Oui.
Et en fait, Maurice Genevoix va découvrir là un moment extraordinaire. Il se situe à la fin, où il ramène le petit écureuil en dépit des pleurs de Sylvie, qui aurait bien voulu le garder. Il va le ramener dans la forêt, et juste à l'endroit précis du pin où il l'a trouvé. Et il y a ce moment où l'écureuil qui s'est endormi dans sa poche. Enfin, je suis sûre que tous ces détails sont exacts, car il était extraordinaire avec les animaux. Il attrapait des faisans, il était capable donc de s'occuper de hérissons.
Ah oui, on veut y croire.
Oui. Mais là, donc, le petit hérisson va quitter un petit peu, mais en même temps, il va revenir. revenir sur l'épaule de l'auteur. Et Maurice Genevoix dit que à ce moment-là,
L'écureuil.
Oui. Maurice Genevoix dit qu'il a un bonheur extraordinaire, c'est-à-dire que il sent la fusion entre lui, l'arbre et l'animal. Et là, c'est tous les règnes qui sont unis. Et l'écureuil est une ouverture dans les bestiaires, parce que il a appris que l'on pouvait être en symbiose, en communication avec la nature, grâce à cet écureuil. Et c'est pour ça que tous les bestiaires vont suivre.
Pour conclure cette première partie, avant d'aborder votre collaboration avec Maurice Genevoix au sein du Haut Comité de la langue française, nous pouvons dire peut-être que les bestiaires permettent à Maurice Genevoix de placer son lecteur face au problème de la mort, comme s'il lui chuchotait à l'oreille la question « Que feras-tu, toi, lorsque ce sera ton heure ?» Et dès lors, les bestiaires nous apparaissent peut-être comme un « Connais-toi toi-même ». Et nous allons faire une pause musicale avec Olivier Messiaen. Nous allons aborder maintenant le travail de Maurice Genevoix sur la langue française, auquel, donc, en tant que rapporteur du Haut Comité, vous avez collaboré, Monique Ferry. Alors, parlez-nous de ce travail, de cette collaboration.
Alors, c'est un aspect tout à fait différent de Maurice Genevoix, mais en même temps qui rejoint son souci de la langue. En fait, en tant que président du Haut Comité de la langue française...
Il était secrétaire perpétuel alors?
Il était secrétaire perpétuel, déjà, oui. Et donc j'ai travaillé avec lui de 68 à 74. Voilà. Le Haut Comité de la langue française s'était fixé pour but d'étudier les vocabulaires scientifiques et techniques et d'essayer de lutter contre l'invasion, disons, trop rapide des termes techniques et scientifiques anglais. Donc, la décision a été prise de créer ces commissions ministérielles de terminologie. On n'y serait jamais arrivé sans Maurice Genevoix. En fait, il y a eu une lettre du Premier ministre en 70, un arrêté qui crée les commissions ministérielles de terminologie. Nous avons commencé à travailler un petit peu avant la parution du décret fondant ces commissions ministérielles de terminologie, c'est-à-dire en 69. En 70, tout était au point et fonctionnait très très bien. Et la parution des premiers arrêtés de terminologie a été janvier 73, où 330 mots et équivalents ont été proposés au public, avec bien entendu une parution au journal officiel.
Monique Ferry, il nous faut conclure cette émission. Alors, Maurice Genevoix, un jeune auteur à redécouvrir?
Concernant son œuvre, on peut dire qu'elle a été étiquetée par les universitaires qui s'en sont quand même un petit peu débarrassés. Ils ont dit un régionaliste, le chantre de la nature, Rabolio, mais il y a toute une œuvre beaucoup plus... elle n'est pas plus riche, mais elle est une œuvre infiniment plus importante. Il y a Guélamour, il y a L'Assassin, il y a Maison Ménil, qui sont...
Des textes moins connus, moins
étudiés, et qui gênent. Mmh. Car en fait, c'est très réaliste, c'est presque du naturalisme, c'est aussi du côté...
Les mains vides, oui.
C'est proche aussi de Steinbeck.
Mmh. Oui, tout à fait, oui.
Donc je pense à des œuvres de Steinbeck, avec cette vision. Il y a deux visions de la femme chez Maurice Genevoix. Il y a la femme qui console, qui est une véritable piéta, qui aide à mourir, comme vous l'avez vu dans Les Bestiaires. Et puis, il y a la femme fatale. Il y a quelqu'un qui dérange. Donc, tout ce côté-là n'a pas été étudié. On a voulu rester dans l'œuvre de guerre qui refait surface, et c'est une très bonne chose à l'heure actuelle.
Oui, pour les historiens aussi.
Elle est importante. Mmh. Mais on a trop voulu voir, dans toute son œuvre romanesque, quelqu'un d'optimiste. Il a été tenté par l'écriture à la manière d'Edgar Poe dans Destination Saint-Pierre. Mmh. Il a écrit également sur les ténèbres de la vie et les ténèbres des personnages.
Je vous remercie, Monique Ferry. C'est ainsi que nous conclurons cette troisième émission. Dans la quatrième et dernière émission sur Maurice Genevoix, nous nous intéresserons avec Madame Tonnet Lacroix, professeure émérite de l'Université de Paris 3, aux rêves de l'âge d'or et du jardin d'Éden dans l'œuvre de Maurice Genevoix. Cette émission a été réalisée par Lucien Penaud.